Je reçois aujourd'hui dans nos studios de Roanne, Béatrice Berne, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes musicienne et vous êtes accompagnée par Martine Chifflot, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes metteur en scène, alors
écrivain,
vous,
oui.
Écrivain aussi, vous oui. allez tout nous expliquer, vous faites partie de l'association Arcane 17 et surtout vous allez nous parler du Festival de Bourgogne-Sud. C'est la 24e édition, alors on en a parlé il y a quelques temps déjà, et là, plus spécialement, on va s'intéresser à l'opéra qui s'appelle Déméter. Alors, on veut tout savoir. Où est-ce que vous l'avez déniché déjà ?
C'est une œuvre que j'ai écrite. C'est une pièce dans un premier temps. Et ensuite, c'est un livret adapté pour l'opéra dont Béatrice Berne a composé la musique.
Ah oui, alors donc vous, le livret. Donc Déméter, on a déjà, rien qu'avec le nom, une petite idée, la mythologie.
Voilà. Donc la déesse de la nature, pour les Grecs, une déesse très importante qui a été l'objet de cultes complexes et durables, et qui surtout est à l'origine d'une invention des céréales à la suite de toute l'histoire qu'on raconte dans l'opéra.
Alors comment vous est venue cette idée ? C'est pas le premier que vous écrivez, je suppose ?
Non, c'est pas... En tout cas, en matière d'opéra, oui, j'avais déjà composé un opéra qui s'appelait « Animalesque », dont Béatrice Berne et Hugues Dufour avaient fait la musique. C'est donc, disons, le deuxième opéra, compte tenu du fait qu'on a fait beaucoup de théâtre musical. Et c'est vraiment un opéra dans tous les sens du terme, d'une manière tout à fait complète. Enfin, on pourra expliquer tout ça.
Ah ben déjà, vous pouvez poser les bases. Hein, comment on écrit un opéra ? Ce n'est pas une pièce de théâtre, ce n'est pas une comédie musicale. Quelle est la spécificité de cette écriture ?
Initialement, j'avais le désir très profond de composer un opéra, plus particulièrement sur le thème de Déméter, parce que c'est d'une certaine manière très actuelle avec ce qui se passe pour l'agriculture et les agriculteurs. Et puis, c'est un très, très beau mythe concernant l'amour filial et la relation de Déméter à sa fille qui a été enlevée, puisque c'est ça le fer de lance de l'affaire, si je puis dire. Le nerf de l'histoire est enlevé par le dieu des enfers. Donc, ça convoque, si vous voulez, toute la mythologie de bas en haut, des enfers à l'Olympe, en passant par Eleusis, qui est une ville très importante en Grèce, enfin qui fut le lieu du culte des mystères. Les mystères étaient célébrés en Grèce et c'était vraiment des initiations, des cérémonies extrêmement prisées des Athéniens et très importantes pour les Grecs. On a un peu perdu ça de vue. Mais c'était une occasion de vivre en quelque sorte la mort et de s'en libérer pour les Grecs qui en avaient très peur.
Alors comment ça peut parler aujourd'hui, au public d'aujourd'hui ? Vous le reliez comment à nos préoccupations d'aujourd'hui ?
Oh, il y a plusieurs niveaux. Déjà, un premier niveau qui est celui des enlèvements, puisque le drame, c'est pas une tragédie puisqu'elle va retrouver sa fille, mais le drame, c'est l'enlèvement de Corée, de la fille de Déméter, qu'elle va chercher pendant 9 jours, sur toute la terre, en Sicile, enfin un peu partout dans le monde autour de la Grèce. Et elle est dans un état de désespoir très profond. D'autant plus que sur un autre plan cosmologique, Corée est certainement nécessaire à la végétation, à la pousser comme la sève pourrait l'être, etc. Et donc, comme elle n'a plus sa fille, elle va assécher la terre et ça nous renvoie à un certain nombre de thèmes écologiques profonds. Est très significatif, très intéressant. Donc je pense que ça peut nous parler dans cette double dimension humaine et cosmique, en quelque sorte.
Et le processus d'écriture, alors il y a quelque chose de particulier que vous devez respecter ?
Alors, j'ai été très inspirée pour l'écrire, c'est vrai, très, très, très motivée. Et voilà, j'ai donc écrit cette œuvre et on a été amené à la réduire parce que ça aurait été trop long, ça aurait duré 5 heures. Enfin voilà, on a donc fait un livret qui a écourté certaines scènes, un peu complexes d'ailleurs, dans les enfers. Et on a de ce fait une œuvre qui correspond aux capacités d'écoute des auditeurs et des spectateurs.
C'est-à-dire, alors, combien de temps ?
Environ 2 heures.
Et combien de personnages sur scène ? Combien
alors,
de rôles ?
En fait, on a des chanteurs qui tiennent plusieurs rôles. On a six chanteurs de très grande qualité.
Et ce sont des professionnels ?
Ah, oui,
vous êtes tous professionnels.
Oui, bien sûr. Ce sont des professionnels qui tournent beaucoup en Europe, à l'étranger, enfin, qui sont connus dans les milieux lyriques. notamment Hélène Fouchère, qui va être la nouvelle Déméter, que nous avons engagée depuis peu dans cette nouvelle version, et qui est très connue en Allemagne, qui tourne beaucoup et qui est une voix magnifique.
Donc vous faites aussi la mise en scène ?
Oui, alors les fêtes, la mise en scène, puisqu'on l'a créée à l'Opéra Théâtre de Clermont, et je vais l'adapter à l'espace du Théâtre Sauvageau de Paray-le-Monial, mais qui est comme un petit opéra, c'est un théâtre qui convient vraiment très bien à cette œuvre.
Béatrice Bern, alors, donc vous composez la musique. Quand vous voyez arriver ce texte, qu'est-ce qui vous inspire ?
Bien, déjà, le beau texte hein, de Martine Chifflot, qui est très fort, très intense, et qui chante déjà de lui-même. Et puis, l'inspiration de ces indications de mise en scène, à la fois une évidente référence à l'Antiquité grecque, à quelque chose de baroque aussi, d'excessif, de très, très bien formulé, de très sensible, référence donc à cette période où on aime reprendre les mythes. Je pense à Orfeo, et aussi quelque chose de très, très actuel. Donc j'avais envie de créer des paysages sonores qui nous immergeaient dans des milieux qui sont très contrastés. On a parlé d'Eleusis, c'est donc la terre. Il y aura avec Poséidon l'univers de la mer, et puis les enfers et l'Olympe. Donc, comme ça, je passe de l'aérien, de l'Olympe, avec une musique très réverbérante. Et le choix des voix est très pertinent. On a deux voix d'hommes, baryton, basse, baryton. Et puis un hautesse qui voyage, une voix très volubile. Et une soprano coloratour. Et puis Déméter, qui est une voix de mezzo, qui représente cette maturité de la mer.
Et ça veut dire qu'il y a des styles différents de musique, des ambiances différentes selon les éléments
Oui, exactement. En fait, les thèmes sont associés à un personnage et à un univers. C'est-à-dire que je travaille sur la fusion entre l'électroacoustique avec des bandes sonores qui donnent un climat comme ça, et de l'acoustique, car l'instrumentarium est assuré par le violon, qui représente la famille des cordes, qui était très important dans l'Antiquité, par les clarinettes, qui représentent le monde des vents, comme le los, et puis les percussions, qui sont très riches. Et notre percussionniste, lui, a aussi un clavier pour impulser et jouer en plus des nombreuses percussions qu'il a, parce que c'est avec le sistre, avec les crotales, on arrive à vraiment avoir...
Alors ce sont des instruments anciens ?
Ce sont des instruments qui sont récents, mais qui reprennent en effet des timbres antiques.
Comment vous le définiriez-vous, ce style musical ? On va s'attendre à quoi ?
Antico-contemporain. C'est-à-dire qu'on a une musique qui est très accessible et surtout, elle est symbolique. Elle va supporter le drame, elle va le soutenir. Et on est sur l'importance du rythme, avec des rythmes pam, 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 qui se superposent. Et les Grecs aimaient le mouvement d'un rythme qui, contrairement à tout ce qu'on entend, est toujours à quatre temps, régulier. Eux, ils ont vraiment un rythme extrêmement vivant. Donc ça, c'est très agréable à entendre. Et puis, des modes. C'est-à-dire que la particularité de cette musique, c'est qu'elle oscille d'une note à l'autre. On est sur des couleurs comme ça qui, tout de suite, nous font penser au monde méditerranéen, grec, et toute une musique qui était extrêmement élaborée, la musique grecque antique. C'est une immersion à la fois dans ses connaissances, dans ses trouvailles, dans ses couleurs, et avec inévitablement des références de notre temps en tant que compositrice, avec des langages, avec des outils aussi qui sont très intéressants. Les instruments acoustiques sont repris par un micro MIDI et avec des pédales, on transforme ou on superpose des sons. Donc, en fait, ce trio devient un orchestre à lui tout seul.
Il y a combien de musiciens ?
Donc, nous sommes trois. Mais comme je vous le disais, entre le percussionniste qui, d'une main, fait, par exemple, il va utiliser le tam qui donne quelque chose de très, très majestueux, comme un gong, vous voyez, et puis des crotales très fines d'un sistre. Et puis de l'autre côté, il va renforcer des basses avec le clavier. La violoniste a des compensations comme ça, soit de distorsion de son pour les enfers, soit d'octaveur pour donner de la profondeur. On dirait qu'il y a un violoncelle qui joue en même temps. Et puis je passe moi de la clarinette standard, disons si bémol, à la basse, et comme ça, ça offre énormément de couleurs. Je suis très sensible aux couleurs musicales, au climat comme ça, et avec les outils électroniques, avec tout le travail électroacoustique que j'ai fait en amont, on arrive à une texture sonore à la fois originale, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de soutenir cette action pour que l'auditeur soit complètement... Et c'est les nombreux retours très positifs qu'on a eus de cette représentation à l'Opéra de Clermont-Ferrand, c'est qu'ils ont été complètement dans ce voyage de ces espaces, de ces paysages. Et en plus de la vidéo, Martin Schiffler vous expliquera dans sa mise en scène, il y a des projections de vidéo. On est vraiment transporté dans ces différents cadres que sont Eleusis, les Enfers, l'Olympe.
Le problème dans l'opéra, souvent, c'est qu'on n'a pas le sous-titre de ce qu'on écoute. Alors, vous me parlez de vidéo, alors comment ça va se passer ?
La vidéo constitue une sorte de décor, en quelque sorte. Oui, c'est un fond significatif qui joue le rôle du décor animé, quelquefois, puisque j'ai fait un film sur les enfers. Mais ce sont des choses très symboliques. Pour ce qui est du texte, effectivement, les opéras, la première fois, ont fourni des titres visibles, enfin des surtitrages qui sont accessibles, mais qui, à mon avis, c'est utile, mais les gens ont les yeux rivés un peu sur le texte qui passe.
Et, oui,
et du coup, ils regardent la scène. Donc c'est à double tranchant. Mais je pense que, bon, l'opéra, déjà, les chanteurs ont une très bonne diction. Ils étaient audibles le plus souvent, voilà. Et puis, le texte, certes, est important, mais la musique l'emporte un peu et souvent, le plaisir d'entendre chanter. Enfin, il y a une espèce de symbiose, de mélange qui fait que, oui, le texte importe, mais ça dépend des personnes, d'ailleurs, parce que les auditeurs ont une approche très différente. On avait pu parler avec certains. Certains, c'est un peu égal d'entendre le texte, d'autres sont curieux de l'entendre. Enfin, voilà, en principe, il est audible. En principe, il est audible, surtout dans des salles comme celle du Théâtre Sauvageau, qui ne sont pas immenses et on n'est pas obligé de sonoriser les chanteurs. Donc, je pense qu'ils entendront très bien et qu'ils comprendront l'essentiel. Parce que, bien sûr, il y a des finesses dans le texte qui s'approchent d'ailleurs des alexandrins. D'une certaine manière, j'étais vraiment très... J'ai été prise par une sorte de musicalité... mythologique, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais en tout cas, j'ai été portée par une certaine exigence d'écriture qui s'est imposée à moi et qui ressemble beaucoup à des alexandrins déguisés. Enfin, c'est de la prose, mais en fait, dedans, il y a des sortes de rimes et et d'allitération.
Et alors, pour découvrir l'opéra, c'est une bonne... Quelqu'un qui en aurait jamais vu, c'est une bonne démarche, une première fois de venir vous voir.
Ouais, il me semble que c'est une façon, oui, effectivement, très éducative d'offrir un exemple d'opéra qui, certes, nous dépayse en Grèce, mais c'est un des plaisirs qu'on peut avoir, mais qui, en même temps, est accessible, audible et tout à fait agréable à entendre. Avec des chanteurs qui vraiment sont très satisfaisants. Moi, je suis très contente de rencontrer des interprètes qui comprenaient très vite les indications et qui sont excellents dans leur qualité vocale et dans leur capacité aussi d'acteur. Ça, c'est pas toujours immédiat. Mmh.
Donc, cet opéra va clore en quelque sorte cette édition du Festival de Bourgogne-Sud. Rappelez-nous donc la date, l'heure, le lieu, très précisément. Et on mettra tout ça sur le site de la radio de toute façon.
Oui, bien sûr. C'est le samedi 26 septembre à 20h au Théâtre Sauvageau de Paray-le-Monial. Avenue Charles de Gaulle, 20, mm-hmm. je crois que c'est au 24.
Oui, on mettra l'adresse, il faut réserver
28,
peut-être.
28 avenue Charles de Gaulle, oui, mm-hmm. ça serait mieux mm-hmm. pour tout le monde de réserver à l'office de tourisme qui fait la billetterie. Mm-hmm. Il y a aussi une billetterie sur place, bien sûr. Les tarifs sont volontairement accessibles, 20€. Un tarif de soutien à 30€ pour ceux qui voudraient aider à la continuation de l'aventure.
Et donc un mot sur ce festival de Bourgogne-Sud qui a démarré au mois de juin ou juillet, ça s'est bien passé, vous avez été satisfaite?
Ça s'est très bien passé, voilà. On a tout à fait atteint nos objectifs avec un public très réceptif qui comprenait nos propos. On offre une sorte de pérégrination aux spectateurs, alors s'ils vont du début à la fin, ils ont tout un voyage. Sur place.
Mmh. Et vous avez déjà des projets pour l'année prochaine ?
Oui, il y a déjà des projets. La programmation est faite, oui.
Eh bien, vous reviendrez nous en parler.
Avec plaisir.
Béatrice Berne et Martine Chifflot, donc merci d'être passés par nos studios de
Rouen. Merci.
Et donc, ne manquez pas Déméter, l'enlèvement de Corée, un opéra de chambre donné le samedi 26 septembre à 20h au Théâtre Sauvageau de Paray-le-Monial, et la billetterie est ouverte à l'Office de tourisme de Paray-le-Monial. Une interview à retrouver en podcast sur notre site rvrradio.fr.